Le grand témoin.
Bonjour et bon dimanche chez vous, grand témoin. Le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Ignace Mutima Muindo Mulekia. Il est parmi les premiers techniciens agronomes polyvalents formés par les Belges avant 1960. Alors avec vous, dans notre entretien, on va parler de vous. Vous allez nous parler de votre expérience dans ce domaine de l'agriculture que vous avez commencé depuis 1959 jusqu'à ce jour. Vous êtes dans ce domaine-là. On va essayer de faire une étude comparative de l'époque coloniale, de la Première République, Deuxième République, jusqu'à la Troisième République aujourd'hui, par rapport à l'agriculture. C'est un moteur de développement pour un pays, l'agriculture, on le sait. Mais avant cela, on va commencer par une brève biographie de votre personne. Vous êtes né un certain 26 juillet 1937, au Nord Kivu.
Oui, à territoire de Lubero.
Et c'est là où vous avez passé le plus de votre temps, c'est là où vous avez grandi?
Oui, on a grandi là-bas parce qu'à l'époque, on ne circulait pas beaucoup. On restait dans les sphères de ce territoire jusqu'à 1959. Je n'avais pas quitté les lieux, sauf pendant la formation. On nous a fait circuler beaucoup pendant la formation.
Quelle formation?
La formation d'agronome. Hein?
Mm-hmm. Ouais. Et c'est qui vous a fait circuler?
À l'organisation de l'enseignement technique, qui dépendait à l'époque de la 5e direction générale, c'est-à-dire aujourd'hui le ministère de l'Agriculture. Cette formation de techniciens ne dépendait pas de l'enseignement général. Et le calendrier scolaire était très différent parce qu'on faisait des années de 13 mois scolaires.
13 mois scolaires
pour une année.
Une année plus un mois.
Oui, vous commencez à février, vous allez sortir au mois de mars de l'année prochaine.
C'était long quand même, hein?
Bon, avec les programmes très chargés.
C'était pas seulement la théorie, c'était aussi la pratique en même temps, quand vous apprenez.
La pratique était cotée pour 60% et la théorie 40%.
Et cette formation...
Pour apprécier la réussite de quelqu'un.
Cette formation a été donnée par qui?
C'était des professeurs belges.
Il y avait beaucoup de Noirs qui avaient suivi cette formation. Vous étiez nombreux?
Non, on n'était pas nombreux. Hein. Et n'avait pas besoin de quantité. Hein. C'est pourquoi, en 1960, le pays s'est retrouvé devant une pénurie. Parce qu'on formait très peu. Hein.
À peu près combien? Vous pouvez avoir une idée?
Si on sortait 10... Chaque année, c'était beaucoup. Une école. Il y avait 4 écoles, hein, suivant les zones climatiques. Hein.
Ça variait entre 5, 4...
Disons une cinquantaine, éparpillée à travers... Vous voyez l'étendue du pays?
Éparpillée à travers le pays,
à
une cinquantaine.
Le pays, selon les besoins des provinces.
Hein. Comment sélectionner? On vous sélectionnait pour suivre cette formation?
La formation commençait après l'école primaire et durait 9 ans.
9 ans?
Après les primaires, oui.
9 ans de formation?
Oui.
Pour devenir technicien agronome?
Agronome, oui. Notre cas, nous commençons en 1953, nous terminons en 1961. Comptez la différence, l'année commençait avec l'année civile, l'année scolaire. Vous commencez, vous avez les vacances au mois de janvier, vous commencez à février, et vous allez aux vacances l'année prochaine au mois de mars. Et ainsi de suite, jusqu'à terminer. Comme.
En 1959, vous avez fini votre formation?
J'étais encore en cours de formation.
En 1959,
pour les besoins d'une société, on est venu solliciter mon concours pour un travail spécifique, hein, la cartographie, topographie. Pendant 3 mois, et puis je rentre à l'école. L'année suivante, je suis revenu pour le même travail.
Et pendant que vous étudiez, vous travailliez déjà?
Oui, c'est ça, partiellement, 3 mois. Vous partez.
C'était pour tous les étudiants?
Non, non, c'était un cas séparé, un cas spécifique. Ce n'est pas pour tout le monde.
Et pourquoi ce choix sur vous? Parce que vous étiez un élève brillant, intelligent?
Bon, quand vous êtes dans une classe, hein, vous n'avez pas tous les mêmes performances. Il y a tel qui est fort en littérature, tel autre en anglais, pour ceux qui suivent les langues. Et tel autre peut-être pour tailler les arbres, hein, et ainsi de suite. Alors les professeurs eux-mêmes me choisissent, ont dit, pour telle demande, c'est tel candidat qui convient. Voilà, je pense que c'est ça.
Vous travaillez pour le compte du ministère de l'Agriculture?
Non, non, c'est une société qui vient demander. Les ministères forment, n'engagent pas les gens. Les ministères forment et avoir les diplômés dans les structures qui doivent l'utiliser, soit l'administration, soit le privé.
Papa Mutima Ignace Mouindo Moulikia, vous avez passé votre enfance à
Benigoutim. Oui, c'est exact.
Racontez-nous un peu, vous avez grandi dans quelles conditions? C'était quoi les conditions de vie à cette époque-là, quand vous grandissiez?
Bon, il n'y a pas de comparaison. Parce que, disons, il y avait des parents qui travaillaient dans des sociétés et d'autres parents qui vivaient dans les villages, mais les affaires, ils faisaient l'effort pour entretenir les affaires jusqu'à ce qu'on vous place soit les écoles secondaires de l'époque, hein, l'école normale, les petits séminaires, ou bien les écoles techniques, hein, ou les écoles professionnelles. Il y en avait, hein, pour faire la menuiserie, la maçonnerie, ou bien la médecine, les écoles de fermiers, les gardes sanitaires, donc tout ça. Toute cette structure existait pour la formation.
Loubero ressemblait à quoi, au fait, à cette époque?
Bon, je ne sais pas, hein. Comme on était sur place, vous ne pouvez pas faire la comparaison avec d'autres
régions. Non, Loubero de cette époque-là et Loubero d'aujourd'hui.
C'est très différent. D'abord, par le nombre de la population, hein. La population est multipliée certainement par 10, hein, même si nous n'avons pas de statistiques. Hein. Alors, le nombre de villages, la situation actuelle, hein, les villages sont venus se regrouper le long des voies routières pour problèmes de sécurité. C'est à travers tous les pays comme ça. Hein. Ça, ce n'est pas spécifiquement Loubero, ou Beni, ou Goma. Hein. C'était comment, il y avait les gens cultivaient et vendaient leurs choses, les routes étaient praticables.
Les gens vivaient dans de bonnes conditions.
Disons que si vous demandez à n'importe quel vieux de cette époque-là, il va vous dire que la vie était plus facile malgré que le salaire était apparemment maigre. Sur le plan commerce, hein, le commerce a beaucoup évolué à Beni Boutembo. C'est parmi quand même les centres qui sont débrouillés. Je pense que c'est le savoir-faire, hein, des autochtones. Parce qu'ils rayonnent ailleurs, hein, ils rayonnent jusqu'à Goma, jusqu'à Kisangani, et ailleurs, et plus loin.
Là, vous faites allusion au Nandi.
Oui.
Mutima Mouindo Moulikia, c'est votre nom. Est-ce que ça a une signification particulière?
Mutima, c'est le cœur. C'était nos Bantu. Ce n'est pas un nom Nandi. C'était nos Bantu. Dans toutes les langues du Congo, on comprend la signification de ces mots. Ça veut dire cœur. C'était un cœur pensant.
Un cœur pensant.
Oui. Et Mouindo, c'était un garçon qui est précédé par une fille dans la filiation, comme lors de naissance. Hein. Moulekia, c'était Dieu, et Dieu qui empêchait les conflits.
Voilà. Donc, vous êtes un homme pacifique.
C'est ça.
Vous n'aimez pas les conflits avec les gens.
C'est lié à l'agronome. Hein. L'agronome qui doit travailler partout, doit pouvoir s'adapter dans toutes les conditions sociales du travail, sur les plans humains et intégration sociale. Sinon, le travail est nul.
Alors, papa Mutima Mouindo Moulikia, vous êtes marié, père d'une grande famille, vous êtes grand-père et arrière-grand-père.
C'est exact.
Ça fait plaisir de voir ces petits et arrière-petits-enfants, non?
Surtout qui viennent vous saluer et vous servir parfois une tasse de thé ou de café.
Ça fait du bien.
Ça fait du bien. On s'est dit, voilà ce que le trésor que Dieu m'a donné.
C'est quoi votre plat préféré? Qu'est-ce que vous aimez manger?
Comme itinérant, je n'ai pas de choix. Parce que si vous êtes exigeant auprès des vieux repas, vous serez très limité et vous ne saurez pas faire le travail d'itinérance qui vous oblige à travailler dans toutes les conditions. Vous ne trouverez pas les mêmes possibilités partout.
Donc vous mangez
sinon,
tout?
Je mange tout. Sinon, selon ma préférence, la nourriture qu'on a connue dans la France, on ne l'oublie pas, c'est le poisson salé, accompagné de n'importe quoi.
Vous n'avez pas un choix spécifique?
Je n'ai pas un choix spécifique, parce qu'en biologie, on dit que les espèces spécialisées sont appelées à disparaître avec leur spécialisation alimentaire.
Alors, parlons de votre expérience professionnelle, papa Mutima Mouindo. Vous avez commencé à travailler en 1959, hein, parce que vous combiniez les études et le travail.
Oui, les deux dernières années.
Mm-hmm. Ouais. Et en 1960, lorsque on a proclamé l'indépendance du Congo, vous étiez où, vous?
On nous a envoyé au village pour passer les jours du 30 juin chez soi.
Qui vous a envoyé au village puisque les Blancs...
L'organisation scolaire, avant. Les Blancs sont partis après le 30 juin. Ils ne sont pas partis avant. J'étais au village, j'ai vu notre chef coutumier qui a descendu le drapeau de la Belgique et il a monté le nouveau drapeau de l'État indépendant, de la République du Congo. À ce moment-là, c'était République du Congo. C'est devenu République démocratique du Congo après. Parce que Lumumba avait dit République du Congo.
Ça représentait quoi pour vous l'indépendance?
L'indépendance, bon. On était contents, on dit voilà, nous allons nous administrer. Mais moi, j'avais déjà une formation de technicien. Je ne regrettais rien et je n'avais rien. Comme j'étais encore en formation, j'ai dit bon, pourvu que j'achève mes études. Et quand on achevait les études, on avait le travail directement. On n'attendait pas, on ne chômait pas.
Donc, vous n'aviez pas besoin d'introduire des lettres de demande d'emploi à gauche, à droite?
Non, on était appelés. On dit, vous allez travailler à tel endroit. Même les derniers mois, pendant que vous étiez encore à l'école, étaient payés déjà par les services.
C'était bien organisé alors?
C'était bien organisé. Oui, l'administration était bien organisée.
En 63, vous êtes allé aux États-Unis pour une spécialisation dans le domaine agricole toujours.
Bon. En 1960, tous les pays manquent de cadres. Alors, des organisations ou des pays entiers sont venus, ont essayé d'aider les pays à former la relève parce que l'administration ancienne était partie. Donc, il fallait former rapidement les cadres et c'est comme ça que à travers nos services, Nous allons voir partir à l'extérieur, et pour mon cas, aux États-Unis, une année, dans le cadre de l'USAID, qui a financé le voyage et la durée de formation. Et ce n'était pas la formation classique comme telle, c'était des spécialisations dans un domaine donné. Vous faites la vulgarisation, vous faites la protection des sols, etc.
Et vous, c'était dans quel domaine? C'était quoi votre spécialité?
La communication sociale, la vulgarisation et les organisations paysannes et la technologie agricole.
Vous passez une année aux États-Unis, en 64, vous revenez au pays. Et là, c'est la période quand même, c'était une période quand même assez trouble pour le Congo. Il y avait différentes rébellions à gauche, à droite.
Oui, nous sommes rentrés au pays parce qu'on aimait bien le pays. Sinon, quand nous sommes arrivés, le pays avait perdu le visage qu'il avait en 1960. D'abord, à cause de les divisions administratives. Tout le monde connaît la période de ce qu'on appelle les provincettes. Et les troubles moulélistes, que le connaît, ce n'est pas à cacher, avec les prises de Kisangani qui avaient envahi les trois quarts du pays. Ce n'est pas le domaine des agronomes, mais attaquer population, attaquer citoyens du pays.
Ça vous a empêché de travailler.
Bon, oui, il y a des régions entières qui étaient perturbées. Hein. C'est une période sombre dans l'histoire du pays. Et on s'est réorganisé après, jusqu'à atteindre, disons, le niveau d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans la page d'analyse de l'histoire.
On parle de votre expérience, Papa Moutima.
Nous parlons de développement.
Oui, justement, c'est ça votre domaine. Alors, vous nous parlez de votre expérience dans ce domaine-là. Alors, en parlant de politique agricole, c'était quoi la politique sous la colonie et en quoi était-elle bonne ou mauvaise?
Je pense que je dois dire plutôt ceci. Vous voyez, toutes les collectivités locales, que les gens connaissent sous la dénomination de chefferie ou secteur, l'organisation de la production agricole avait comme base la chefferie ou le secteur. Avec les chefs des collectivités, avec ses policiers, il a ses agronomes qui encadrent les paysans. Et à partir de là, les territoires est plus haut et les commerçants viennent se ravitailler à différents niveaux. Et un réseau routier qui traverse les campagnes pour permettre aux commerçants de pouvoir atteindre les lieux, les marchés, disons. Voilà. Ah, donc cette structure est cassée puisque même les paysans ne sont plus encadrés. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. C'est que vous savez, ça. Le transport se fait par vélo, si pas par tête de choses, ou bien par ceux qui ont des pirogues, ceux qui ont des systèmes de cours d'eau navigables, sont les plus heureux.
Et sur Mobutu, cette politique agricole a évolué comment?
On a proclamé plusieurs fois agriculture priorité des priorités. Ça résultat réel. Tout le monde a vécu ça. Il n'y a personne qui peut refuser. Et c'est à ce moment-là, disons, l'extérieur voyant que les pays sont prêts, c'est à cette époque-là qu'est né ce qu'on appelle les ONG de ceci, ou les projets spécifiques, les projets maïs, projet cacao, projet ceci. Et les résultats, on peut voir aujourd'hui et conclure que ça n'a pas évolué, on ne sait pas pourquoi. C'est la faute, ce n'est pas la faute des dirigeants du pays, je pense que c'est la faute des encadreurs en bas.
Comment ça?
Si vous êtes chargé des projets, vous ne l'animez pas bien, il tombe. Vous allez à haut et on ne vous écoute pas.
Alors toujours dans votre expérience professionnelle, vous avez donné cours à l'ISIDER Bukavu.
Ouais.
Là c'est en 1967.
69, après la guerre des mercenaires à Bukavu.
En 1969,
hein? Oui, en 1969, 68-69, parce que la guerre des mercenaires de Bukavu est finie à 67. La population se réorganise, la vie normale reprend à Bukavu à partir de 68, et en novembre 68, je commence, on m'appelle, j'étais au ministère de la, disons, à la direction provinciale de l'agriculture, et on vient m'appeler pour aller donner cours d'agriculture dans un établissement qui s'appelait Institut Social Africain, qui est devenu aujourd'hui Institut Supérieur de Développement Rural, ISDR, plus connu aujourd'hui, et ils sont nombreux. À ce moment-là, il n'y avait que Bukavu pour cet établissement. Et je vais enseigner dans cet établissement pendant 25 ans.
25 ans, oui.
Oui, 25 ans.
Et il faut dire que vous étiez parmi les premiers professeurs qu'on a recrutés.
Le premier groupe des enseignants qui ont conçu la formule qu'il faut appeler aujourd'hui ISDR, parce qu'il n'en existait pas nulle part au monde, sauf à Bukavu. Et les autres pays, comme le Canada, la Suisse, l'Angleterre, ils sont venus, même l'UNESCO, ils sont venus regarder à Bukavu, qu'est-ce qu'on a conçu à Bukavu. Donc c'est une découverte de la République démocratique du Congo, et que les autres sont venus copier chez nous, et ils sont allés perfectionner chez eux. Maintenant, nous devons aller chez eux pour aller voir comment est-ce qu'ils ont adapté chez eux.
Alors que c'est quelque chose qu'ils ont pris chez nous, qui est né chez nous.
Il est né chez nous. Ce n'est pas le premier cas. Il y a plusieurs cas comme ça.
Mais comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est parce que ici chez nous, on a négligé cet institut supérieur de développement?
Je pense que nous inventons, nous ne savons pas, nous ne faisons pas assez de réflexion pour voir si c'est bien adapté et comment ça va continuer. Je pense que c'est le défaut du pays sur ce plan-là. Bon, je voudrais, comme je ne suis plus dans l'enseignement supérieur, regardez, c'était une école privée, une école d'enseignement supérieur privée, et à 71, le régime va nationaliser l'enseignement supérieur. Et nous rentrons dans l'UDASA. On sait à quoi on est arrivé.
À votre époque, lorsque vous étiez enseignant là, à l'ISIDER, c'était un institut privé où on ne retrouvait pas beaucoup d'étudiants. C'était vraiment bien organisé.
C'était un institut supérieur pour le développement fondé par les Pères Blancs, les missionnaires d'Afrique, pour leur enseignement, pour illustrer les renseignements religieux. Vous connaissez comme c'est l'Église catholique, l'aide de l'Église catholique, c'est assez limité. Ils ne pouvaient pas prendre un grand nombre d'étudiants. Et les enseignants et les étudiants à nombre limité, mais ce qu'on cherchait, c'était l'efficacité. Alors, plus tard, avec l'UNASA et la réouverture et l'évolution de notre enseignement technique et les besoins du pays, on va devoir engager chaque année un contingent d'étudiants beaucoup plus important, jusqu'à atteindre 100, 200, et on me dit aujourd'hui que c'est au-delà de 500 chaque année. Au-delà de 100 étudiants, moi je trouve que si on n'a pas d'équipement, il faut entraîner ces gens-là dans les villages. On n'a pas de véhicules pour les transporter. On manque des enseignants pour les encadrer dans les milieux ruraux, là où ils vont pratiquer. Parce qu'il ne faut pas les entraîner dans les villes. Ils sont faits pour le développement rural. Même si j'ai participé à la conception de la formule, je n'ai pas suivi l'évolution de la formule.
Alors vous avez fait comme tous les Congolais, quoi.
Oui.
Vous avez participé à la conception, mais vous n'avez pas fait le suivi après.
Parce que j'ai eu d'autres fonctions plus tard.
Lesquelles?
Bon, je suis entré, il y a une personnalité qui est venue au Kivu comme gouverneur. Et il est venu comme ça, il a choisi ses collaborateurs sur place. Et je suis parmi ces collaborateurs-là. Il s'agit d'aujourd'hui honorable Mwando Simba Charles, qui est aujourd'hui premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est avec lui que j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui pour des projets de développement
rural.
Oui.
Donc en 81, quand il devient gouverneur du Kivu.
En 80,
il est devenu. En 80,
oui,
gouverneur du Kivu.
C'est à 81 qu'il va m'appeler.
Qu'il va vous appeler pour travailler avec lui.
Pour travailler auprès de lui.
Comme il savait que vous étiez bien formé dans ce domaine de développement rural.
C'est lui qui va apprécier, ce n'est pas moi.
Justement, il vous a appelé parce qu'il savait que vous étiez érodé dans ce domaine-là.
Peut-être.
Vous avez travaillé depuis 81.
Oui.
Jusqu'à ce jour, vous travaillez toujours avec lui, même s'il n'est plus gouverneur.
Oui, nous avons créé des structures d'animation pour le développement de nos milieux.
Vous avez créé des structures dans tous les pays ou bien dans des endroits bien précis?
Non, c'est pour les pays. Alors, selon les moyens, on se place dans tel coin et à la demande de la population. Si la population peut vous demander, venez nous arranger une source, venez nous arranger une école, venez nous arranger une route d'accès, venez nous construire un pont. Voilà, il faut répondre à tous ces besoins. Ce sont des besoins des milieux ruraux.
Vous avez 76 ans,
oui,
ou 76 ans.
Il faut parler à Belgisme, hein,
70 et 90. 76 ans.
C'est plus facile que de faire des calculs mentaux avec les 70, etc.
Vous avez 76 ans.
C'est 77 ans. Nous sommes en 2014.
Oui, vous êtes né en 38, non?
37.
En 37, oui, 77
ça fait,
ans.
Ça fait 77 ans.
Et vous êtes toujours actif.
C'est la fête de la jeunesse.
Vous profitez jusqu'en décembre 2014.
Hein. Oui.
Lorsque vous aurez atteint 78 ans, il faut vous considérer vieux. Parce qu'on dit la jeunesse est de 7 à 77 ans.
Bon,
mais vous êtes toujours actif.
Tant qu'on est en bonne santé, si Dieu nous donne la santé, nous consacrons ça à la population, aux populations qui ont besoin de notre travail.
Et vous faites toujours ce travail de sensibilisation, de vulgarisation.
Bon, c'est-à-dire, s'il y a une demande d'assistance technique pour concevoir un projet ou pour aménager une colline, nous répondons positivement. Même ici à Kinshasa, par exemple, actuellement, je suis en train d'aménager une colline en montrant le système de lutte anti-érosive, puisque c'était un problème majeur pour la ville de Kinshasa. Je voudrais que d'ici 6 mois, je puisse inviter une autorité de la ville pour dire voici comment il faut aménager nos collines pour les mettre à valeur au niveau de Kinshasa.
Alors, papa Moutima, on va souffler un peu.
Oui.
Vous aimez la musique?
Bon, tout le monde aime la musique. La musique, ça fait partie de l'agrément de la vie.
Quelle musique vous écoutez souvent?
La musique congolaise, la musique étrangère et surtout la musique de notre époque quand nous étions jeunes.
De Grand Calais, de Calais Jeff, de Luambo?
De Luambo ou de l'extérieur, mais puisque vous me posez cette question, il y a à notre époque, comme on parle aujourd'hui de Rio de Janeiro.
Brésil.
Il y a une chanson de Dario Moreno, si tu vas à Rio, n'oublie pas. Est-ce qu'on peut trouver ça? Je ne sais pas.
Chantez un peu, chantez.
Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut.
Mais continuez, Papa Moutima, pourquoi vous arrêtez?
Je ne connais plus, je ne connais plus la suite.
Et vous aimez
c'est
cette
très
chanson?
Bien, oui, c'est très bien ça. Mm-hmm. Sinon, dans la série, les milliers de chansons congolaises, il y a quelques-unes qui trachent, par exemple, qui sont des vraies œuvres, des chefs-d'œuvre, comme Mabélé.
Mabélé hein? De Lutumba.
Lutumba, il est chanté par José Langolé, là. C'est la musique, c'est Luambo, la composition, c'est
Lutumba.
C'est Lutumba et le musicien là, comment?
Samangwana,
voilà. Uh-huh. Oui, c'est la voix de Samangwana. Ça a été bien travaillé.
C'est comment qu'il chante ça?
Ma belle, est-ce que j'ai... Moi, je ne suis pas musicien.
Non, vous essayez juste pour que j'aie une idée de la chanson.
Que vous avez une idée de la chanson. Ma belle, maman. Il dit, si vous voyez les...
Je fais ça de la mélodie.
La mélodie. Les techniciens de choses vous trouveront ça. Et si bien. Vous pouvez me trouver les chansons de Dario Moreno.
Ah, voilà. On va vous trouver une chanson de Dario Moreno qui vous fera plaisir, qui va vous faire penser à votre jeunesse.
Si tu vas à Rio.
D'accord.
Vous savez que dans les enregistrements qui sont ici, le samedi, lundi, mardi, on met les musiques des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on ne met pas des années 50. Pas tous les jours, une fois par mois, comme ça, si on peut chercher. Évidemment, parfois, certaines sont devenues très difficiles à trouver. Mm-hmm. Il y a, par exemple, les enregistrements qui ont été réalisés à Lubumbashi, à l'époque, avec Atete Mwendaja Bosco. Et à Kisangani, les Ombiza Charles et Harry Tinapa. Il y avait mm-hmm. aussi, il y avait trois centres d'enregistrement musical. Ouais. Et on dirait qu'on les a oubliés comme ça. Pourtant, c'est notre patrimoine culturel, très important. Et c'est ce qui faisait du Congo le premier pays d'enregistrement musical.
Alors, on va demander à la technique de nous balancer la chanson Rio pour vous faire plaisir.
Merci, si vous trouvez.
Elle est là, la chanson, ne vous en faites pas. Alors Hippolyte, tu vas nous balancer la chanson et puis on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Dans un petit village caché sous les fleurs sauvages, sur le versant d'un coteau. C'est à Madureira, tu verras les cariocas sortir des maisonnettes pour s'en aller à la fête des sambas. Et tu verras grimpant le long des collines, des filles à la taille fine avancer à petits pas. Et les fanfares dans ce joyeux tintamarre emmener les fleurs bizarres des écoles de samba. Qui prépare le bal et s'en vont pour le carnaval. Répétez la cadence de la plus folle des danses, celle de Madureira. Tu verras grimpant le long des collines, des filles à la taille fine avancer à petits pas. Et les fanfares dans ce joyeux tintamarre emmener le flot bizarre des écoles de samba. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Dans un petit village caché sous les fleurs sauvages, sur le versant d'un coteau. Si tu vas à Rio, si tu vas à Rio, si plage, caches-tu les fleurs sauvages sur le versant d'un coteau. C'est à Madureira, tu verras les cariocas sortir des maisonnettes pour s'en aller à la fête des sambas. Et tu verras grimpant le long des collines, des filles à la taille fine avancer à petits pas. Et les fanfares dans ce joyeux tintamarre emmener les fleurs bizarres des écoles de samba. Qui prépare le bal et s'en vont pour le carnaval. Répétez la cadence de la plus folle des danses, celle de Madureira. Tu verras grimpant le long des collines, des filles à la taille fine avancer à petits pas. Et les fanfares dans ce joyeux tintamarre emmener le flot bizarre des écoles de samba. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Dans un petit village caché sous les fleurs sauvages sur le versant d'un coteau. Si tu vas à Rio, si tu vas à Rio, si tu vas à Rio.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Nkouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Ignace Mutima Muindo Mulekia. Il est parmi les premiers techniciens agronomes polyvalents formés par les Belges avant 1960. Papa Mutima, comment on peut développer aujourd'hui la production agricole au Congo?
Pour développer la production agricole, pour moi, le ministère de l'Agriculture devrait organiser au niveau de chaque province, un forum des chefs de collectivités, un forum agricole. Parce que si on fait au niveau du pays, ça sera très grand et très difficile à soulever. Un forum au niveau de chaque province, et même la province c'est déjà grand, mais au moins à chaque province, au niveau du gouverneur de province. Et élaborer un programme avec les chefs coutumiers, pas leur donner un programme. Chaque coutumier vient avec ce programme et on essaye de le réaliser. Parce que quand on impose, quand on élabore un programme en haut, il ne correspond pas aux besoins locaux. Il faut demander aux chefs coutumiers d'élaborer le programme de développement agricole de sa chefferie, de son secteur. Et venir présenter ça au cours d'un forum national au niveau de la province. Et on ne parlera pas ça un forum provincial, mais un forum national au niveau de la province. Et les responsables de l'agriculture au niveau de la province viennent maintenant à Kinshasa pour faire une moule commune. Et dégager qu'est-ce que. Et voir maintenant avec les autorités nationales, les autorités provinciales, comment est-ce que peut exécuter ça. Et les rythmes d'exécution. Parce qu'on ne peut pas, c'est très grand. Vous allez voir que ça sera un très grand paquet. Et les besoins budgétaires seront très grands. Mais on peut solliciter peut-être l'aide extérieure, mais progressivement, chaque année, réaliser quelque chose dans ce programme précis. Et non pas élaborer à partir d'en haut, mais à partir d'en bas.
Alors, vous êtes expert en développement rural, mais actuellement, on a l'impression que les gens quittent les milieux ruraux pour aller vers la ville. Qu'est-ce qui explique cet exode?
L'exode rural a deux causes. D'abord, le manque de circulation de l'argent. Si vous êtes dans un milieu rural, enclavé, il n'y a pas de circulation. Vous devez d'abord, pour atteindre un peu les moyens de circulation, peut-être vous devez marcher. 100 kilomètres, 2 jours, ne parlons pas à terme de kilomètres, peut-être 2, 3 jours à pied pour atteindre le premier marché. Et là où il y a un peu d'argent. Alors les gens suivent ça. Les gens suivent là où il y a un peu d'argent. Vous êtes dans un milieu rural, vous ne produisez pas du savon. Vous ne produisez pas du sel. Et dans certains endroits, en dehors de la cuvette centrale, vous ne produisez pas de l'huile, vous devez acheter. Et vos propres produits, vous ne parvenez pas à les vendre pour avoir ce que vous ne pouvez pas acheter. Il faut acheter des habits pour les enfants, pour les femmes. Il faut payer les frais scolaires des enfants. Donc, les gens viennent tout près de là où il y a circulation d'argent. Ça veut dire un mouvement économique qui vit. Mmh. C'est à cause de ça que les gens viennent s'agglomérer autour. Ils viennent s'agglomérer autour des agglomérations. C'est une tautologie.
Oui, je comprends. Mais comment on peut faire pour éviter cette fuite massive vers les villes?
Il faut réouvrir les voies qui mènent vers les exploitations rurales et organiser des marchés sur place. Quels commerçants? Les gens qui commercialisent les produits agricoles viennent les chercher à milieu rural au lieu que les milieux ruraux viennent les écouler à chez eux. Nous voyons l'exemple. Hein, vous voyez, si vous êtes au niveau d'un scellé, hein, vous verrez les camions qui viennent de Bandundu. Ça veut dire que ce sont les gens d'ici qui vont au Bandundu chercher les produits et les producteurs restent sur place.
Alors, dans votre expérience professionnelle, quels sont les moments qui vous ont marqué?
Les grands moments qui m'ont marqué.
Ouais.
Disons, d'abord, quand on m'a appelé pour aller enseigner, je me suis dit, moi je n'ai pas été formé comme pédagogue, qu'est-ce que je vais donner là? Et puis, il fallait concevoir un cours d'agriculture à des futurs cadres de développement qui ne sont pas des agronomes. Comment adapter ça? Qu'est-ce qui est dans la masse d'enseignement de l'agriculture? Qu'est-ce qui leur est nécessaire? Donc ça, c'est un moment. Et comme ce que j'ai élaboré a été accepté et adopté, et c'est ça qui a à travers tous les pays, j'étais très content.
Mm-hmm.
Alors, deuxièmement, je suis en train d'enseigner. Il y a quelqu'un qui m'appelle pour venir travailler auprès de lui. Comme directeur de cabinet à l'époque, on appelait ça conseiller principal. J'ai dit, ah, est-ce que je saurais répondre au vœu de celui qui m'appelle? Une préoccupation, mais quand même une grande joie. Et une autre fois, a collaboré avec l'UNICEF à travers une ONG que j'ai présidée à Bukavu. L'UNICEF a choisi mon texte pour représenter l'Afrique auprès d'une conférence internationale sur le développement dans les pays du tiers-monde. Il y avait 3 conférenciers, un asiatique, un sud-américain et un africain.
C'était vous l'Africain?
C'était moi l'Africain qui venait du Kivu, qui ne venait pas d'une capitale, mais qui venait des milieux ruraux. Et c'était intitulé des expériences novatrices de développement. Il fallait les présenter avec illustrations et images. Mm-hmm. Ça a été beaucoup apprécié. Mm-hmm. C'était en 1978.
Ouais. Voilà, ce sont là quelques grands moments.
Quelques grands moments comme ça, il y en a comme ça.
Qui ont marqué votre vie.
Oui. Et disons, pour clôturer ça, le grand moment, c'est maintenant aussi. Je me dis, à cet âge, je suis encore capable d'atteindre une colline et aller travailler là. J'ai dit,
c'est pas donné à tout le monde.
J'ai dit, merci Dieu. Il c'est lui qui a la clé de la vie.
Voilà, nous sommes presque à la fin de notre entretien, Papa Mutima Muindo. Mais une dernière question avant de nous séparer. Qu'est-ce qu'il faut pour un enseignement agricole efficace aujourd'hui?
un enseignement agricole efficace pour préparer la relève et corriger les erreurs d'aujourd'hui. Je pense que il faut à travers les écoles d'agriculture, et il ne faut pas créer des choses nouvelles parce qu'on n'a pas d'argent. Les ISDR qui sont éparpillés à travers le pays, donner une formation pragmatique, c'est-à-dire pratique, et pendant quelques temps, et après donner des équipements à ces gens formés et les envoyer en milieu rural, leur donner l'occasion d'acquérir des terres et faire des exploitations personnelles, individuelles, et ne pas former des fonctionnaires.
Papa Ignace Mutima Mwindo Mulekia, merci d'avoir répondu à notre invitation. À tous les auditeurs qui nous suivent à travers la RDC et même à l'étranger, Grand Témoin vous faisait découvrir Mutima Mwindo Mulekia Ignace, je l'ai dit. Il est parmi les premiers techniciens agronomes polyvalents formés par les Belges avant 1960. Merci à Hippolyte Kabanga qui était à la mise en onde, au micro, Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sous la fréquence de la paix.